Vie et aventure de Nicolas Nickleby. Chapitre 18. Mademoiselle Nag, après avoir raffolé de Catherine Nickleby pendant 3 jours entiers, lui voue décidément une haine éternelle. Raison qui détermine Mademoiselle Nag à prendre cette résolution. Il ne suffit pas, pour inspirer la pitié, qu'une voix soit pleine de tourments, de fatigue et de souffrance. C'est assez pour ceux qui la subissent. Mais ce n'est pas assez pour exciter l'émotion et l'intérêt de ces personnes qui, sans manquer précisément de sensibilité, savent ménager leur compassion et ne l'accordent qu'à bonne enseigne. Il leur faut de puissants stimulants, et il faut souvent à ces disciples d'une religion de charité presque autant d'excitation pour l'exercice de leur vocation qu'il en faut aux disciples de la doctrine d'Épicure pour renouveler leur goût blasé pour le plaisir. De là vient cette sympathie maladive, cette compassion nerveuse que l'on dépense chaque jour à des objets que l'on va chercher bien loin, lorsque l'on n'a constamment à sa porte et sous ses yeux que trop d'occasions d'exercer les mêmes vertus sans qu'il n'en coûte à rien à la santé. Bref, il faut du romanesque à la charité comme au nouvelliste ou au dramaturge. Donnez-moi un filou en blouse. Il n'y a personne, parmi les gens bien élevés, qui voulût faire la moindre attention à ce personnage vulgaire. Mettez-lui sur le dos une veste de velours vert, sur la tête un chapeau conique. Changez aussi le théâtre de son industrie. Transportez-le de la foule d'un carrefour sur une route des montagnes. Et vous pourrez vous flatter d'en avoir fait l'âme et la source de l'intérêt le plus poétique. Il en est de même de cette grande vertu cardinale, la plus grande de toutes, celle qui, bien exercée, bien cultivée, facilite, que dis-je, comprend tous les autres. Il lui faut aussi un roman. Et moins il y en a dans ce roman de vie réelle, de travail, de lutte, de peine journalière, mieux il vaut. La vie à laquelle la pauvre Catherine Nickleby avait été réduite par le cours des circonstances développées dans ce récit était une vie douloureuse. Mais, comme nous aurions peur que les détails d'une existence triste, insalubre, renfermée, fatigante, ne parussent pas présenter assez d'intérêt à la masse des personnes charitables et sympathiques, nous aimons mieux mettre en scène Mademoiselle Nickleby elle-même que de risquer de refroidir leur pitié dès le début par une description minutieuse et prolongée de l'établissement où trônait Madame Mantalini. Eh bien, vraiment, Madame Mantalini, dit Mademoiselle Nag, au moment où Catherine retournait tristement chez elle, le soir même de ses débuts. Cette Mademoiselle Nickleby est une jeune personne très bien. Une jeune personne très bien, certainement. Je vous donne ma parole, Madame Mantalini, que cela fait vraiment un honneur extraordinaire à votre discernement d'avoir trouvé une si excellente, si bien élevée, si modeste jeune personne pour m'aider à essayer les robes. J'en ai déjà vu beaucoup de ces jeunes personnes qui ne manquaient jamais l'occasion de faire parade devant leur supérieur, de leur... Ah, mon Dieu, je leur pardonne. Mais d'ailleurs, Madame Mantalini, vous faites bien tout ce que vous faites, et c'est ce que je dis souvent à ces demoiselles. Comment expliquer que Madame fasse toujours tout bien quand il y a des gens qui font presque tout mal? C'est là vraiment pour moi un mystère. Mais, à l'exception d'une excellente pratique qu'elle a mise de mauvaise humeur, dit Madame Mantalini, Mademoiselle Nickleby n'a rien fait que je sache de bien remarquable aujourd'hui.
Oh, sans contredit, répliqua Mademoiselle Nag. Mais songez-y, madame, qu'il faut faire la part de son inexpérience.
Et de sa jeunesse, dit finement Madame Mantalini.
Oh, je ne l'excuse pas par là, Madame Mantalini, reprit Mademoiselle Nag, rougissant jusque dans le blanc des yeux, parce que si la jeunesse était une excuse, vous n'auriez pas... Une aussi excellente première demoiselle que vous, je suppose ?
Ah, vraiment, madame Mantaligne, je n'ai jamais vu personne comme vous, repartit Miss Nag de l'air le plus satisfait.
La vérité est que vous devinez ce qu'on va dire avant que les mots soient seulement venus sur les lèvres. Ah, c'est délicieux.
Eh bien, moi, observa madame Mantaligne, jetant sur sa première demoiselle un regard tout à fait insignifiant, pendant qu'elle riait à cœur joie dans sa manche. « Je regarde mademoiselle Nickleby comme la petite fille la plus gauche que j'ai jamais vue de ma vie. »«
La pauvre enfant !» dit mademoiselle Nag. « Ce n'est pas sa faute. Sans cela, on pourrait espérer de l'en corriger. C'est un malheur pour elle, madame Mantaligne. Et, comme disait à l'acheteur le maquignon qui voulait vendre son cheval aveugle, la pauvre bête n'en est que plus intéressante. »
« Son oncle m'a dit, remarqua madame Mantaligne, qu'on la trouvait jolie. « Moi, je trouve que c'est l'une des petites filles les plus ordinaires que j'ai rencontrées. »«
Ordinaire ?» s'écria mademoiselle Nag, le visage rayonnant de joie.
« Et gauche par-dessus le marché ?»«
Eh bien, tout ce que je puis dire, madame Mantaligne, c'est que je l'aime tout à fait, la pauvre fille. Et quand elle serait deux fois plus ordinaire et deux fois plus gauche qu'elle n'est, je ne serais que plus sincèrement son amie, sur ma parole. »
Le fait est que mademoiselle Nag avait conçu un commencement d'affection pour Catherine Nickleby, dès le moment même où elle avait vu son échec auprès de la grande dame du matin. Et le petit bout de conversation qu'elle venait d'avoir avec madame Mantaligne avait encore augmenté d'une manière étonnante ses bonnes dispositions pour elle. Or, la chose est d'autant plus digne de remarque que le premier coup d'œil qu'elle avait donné à la figure et à la tournure de la jeune fille lui avait laissé un certain pressentiment qu'elle ne s'accorderait jamais.
« Mais à présent, » dit mademoiselle Nag en se regardant de près dans la glace, « je l'aime, oui, véritablement je l'aime, je le déclare hautement. »
Telle était la nature de cet attachement, de ce dévouement désintéressé. Il était tellement au-dessus des petites faiblesses de la flatterie ou des illusions que l'excellente mademoiselle Nag, dès le lendemain, avoua sans artifice à Catherine qu'elle voyait bien qu'elle ne réussirait jamais dans l'état, mais qu'elle n'avait que faire de s'en tourmenter le moins du monde, parce qu'elle, mademoiselle Nag, ferait de son côté tout ce qu'elle pourrait pour ne pas la mettre en évidence, et que, par conséquent, elle n'aurait rien d'autre à faire que de se tenir parfaitement tranquille devant le monde, évitant soigneusement tout ce qui pourrait attirer sur elle l'attention. Ce dernier conseil répondit si bien aux sentiments intimes et aux vœux les plus chers de la timide jeune fille qu'elle promit aisément d'obéir en tout point aux recommandations de l'excellente vieille fille, sans examiner les motifs qui les lui dictaient, sans même y réfléchir un moment.
« Ma parole d'honneur, ma chère amie, je prends à vous un vif intérêt, un intérêt de sœur véritable. » Je n'ai jamais éprouvé un sentiment si étrange.
Et en effet, ce qu'il y avait de plus étrange dans ce sentiment, c'était qu'il ressemblât à celui d'une sœur, et non pas à celui d'une grande tante ou d'une grand-mère, ce qui eût été beaucoup plus naturel, vu la différence de leurs âges respectifs. Mais comme mademoiselle Nag avait toujours une mise jeune, elle avait peut-être aussi des sentiments jeunes comme sa mise.
Bon Dieu ! Dit mademoiselle Nag à Catherine en l'embrassant, au moment du départ, le second jour de son apprentissage. « Combien vous avez fait de gaucherie toute la journée, ma chère ?»«
J'ai bien peur que vos avertissements obligeants et sincères n'aient d'autre effet que de me faire reconnaître plus péniblement mes défauts sans réussir à les corriger, » répondit Catherine avec un sourire.
« Non, non, je suis sûre que non, »
répliqua mademoiselle Nag de meilleure humeur que jamais.
« Mais il est bon que vous les connaissiez tout de suite pour continuer votre petit train avec plus de tranquillité et de courage. Par où allez-vous, mon amour ?»«
Je vais à la cité. »«
La cité !»
s'écria mademoiselle Nag, se regardant d'un œil très favorable dans la glace, en nouant les rubans de son chapeau.
« Dieu du ciel, est-ce que vraiment vous demeurez dans la cité ?»«
Et quoi ?» demanda Catherine. « Serait-ce la première fois que vous auriez entendu dire qu'il y demeure quelqu'un ? » ?»«
Je n'aurais jamais cru, en effet, qu'une jeune femme pût y demeurer 3 jours de suite, au plus, répondit Mademoiselle Nag.
Mais les personnes gênées, ou plutôt pauvres, dit Catherine en se reprenant à la hâte, car elle avait peur de ne pas employer des termes assez humbles pour sa position. Il faut bien qu'elles demeurent où elles peuvent.
Ah, certainement, il le faut bien.
C'est trop juste, reprit Mademoiselle Nag, avec un demi-sourire que, généralement, dans la société, on regarde comme un tribut suffisant de pitié payée au malheur. Surtout si on sait l'accompagner de 2 ou 3 charitables petits signes de tête.
C'est ce que je répète souvent à mon frère, quand nos domestiques s'en vont à l'hôpital l'un après l'autre et qu'ils attribuent leur maladie à l'humidité de la cuisine où ils couchent.
« Ces gens-là, lui dis-je, sont trop heureux de coucher quelque part. Dieu proportionne nos échelles au fardeau qu'elles ont apporté. C'est une idée bien consolante de penser à cela, n'est-ce pas ?»«
Très consolante, répondit Catherine.
« Je vais faire une partie de la route avec vous, ma chère, dit Miss Nag. Car vous passez tout près de chez nous et comme notre dernière domestique est allée à l'hôpital il y a 1 mois, avec le feu de Saint-Antoine au visage, je serais charmée que vous me teniez compagnie. »
Catherine se serait volontiers privée de l'avantage flatteur d'une pareille société. Mais Miss Nag, sans attendre sa réponse après avoir ajusté son chapeau à son entière satisfaction, lui prit le bras d'un air qui témoignait de l'honneur qu'elle était sûre de lui faire. Et elles étaient déjà dans la rue que Miss Nickleby n'avait pu ouvrir encore la bouche.
« Je crains, dit-elle avec hésitation, que ma mère, ne soit là à m'attendre. »
« Vous n'avez que faire, ma chère, dit Mademoiselle Nag avec un sourire de supériorité bienveillante, de vous excuser d'emmener avec vous votre mère. Je suppose que la vieille dame est une honnête personne et je serai très... très aise de faire connaissance avec elle. »
Comme la pauvre Madame Nickleby était, pendant ce temps-là, à se geler les pieds et le reste au coin de la rue, Catherine n'eut pas d'autre alternative que de lui faire la connaissance de Mademoiselle Nag, qui, singeant les airs de la dernière pratique descendue de son équipage, reçut la présentation avec une condescendance pleine de politesse. Elles partirent donc toutes les 3 en se donnant le bras, Mademoiselle Nag au milieu occupant la place d'honneur avec une aisance tout aimable.
« Il m'a pris un tel caprice pour votre fille, Madame Nickleby, que vous ne sauriez le croire, » dit Mademoiselle Nag après avoir fait quelques pas dans un silence majestueux.
« Je suis heureuse de vous l'entendre dire, » répondit Madame Nickleby. « Quoique, en vérité, cela ne me surprenne pas de voir Catherine se faire aimer, même des personnes qui lui sont étrangères.
« Hum !» cria Miss Nag.
« Vous l'aimeriez bien plus encore quand vous saurez ce qu'elle vaut, » dit Madame Nickleby.
« C'est un grand bonheur pour moi, aussi de toutes mes infortunes, d'avoir une enfant qui ne sait ce que c'est que l'orgueil et la vanité, après une éducation qui aurait pu lui servir d'excuse s'il en était autrement. Vous ne savez pas, Mademoiselle Nag, ce que c'est que de perdre un époux. »
Comment Mademoiselle Nag aurait-elle su ce que c'était que de perdre un époux? Elle ne savait pas même ce que c'était que d'en attraper un. Aussi, répondit-elle avec quelque précipitation.
« Bien sûr que je n'en sais rien !»
Et ces paroles étaient prononcées d'un air qui voulait dire
« Je voudrais bien voir que j'eusse fait la sottise d'épouser quelqu'un. Fille donc, pas si bête !»«
J'espère que Catherine aura déjà fait quelques progrès, quoiqu'il y ait bien peu de temps, » ajouta Madame Nickleby, toute fière de sa fille.
« Oh, naturellement !» dit Miss Nag.
« Elle en fera bien d'autres, » continua la bonne mère.
« Et pour cela, je vous le garantis, » répliqua Miss Nag, serrant le bras de Catherine pour lui faire goûter le charme de cette amère plaisanterie.
« Elle a toujours eu des dispositions, » dit la pauvre dame Nickleby, s'animant de plus en plus.
« Toujours, dès le berceau. Je me rappelle qu'à l'âge de 2 ans et demi, tout au plus, un monsieur qui venait souvent nous voir à la maison, monsieur Watkins, vous savez, Catherine, pour qui votre papa avait donné caution et qui, plus tard, après sa banqueroute, se sauva aux États-Unis d'où il nous envoya des raquettes pour marcher dans la neige, avec une lettre si tendre que votre pauvre cher père en a pleuré au moins 8 jours. Vous rappelez-vous la lettre? Il disait qu'il était bien contrarié de ne pouvoir rembourser les 1250 francs qui nous étaient dus,
mais qu'il avait placé tous ses capitaux à intérêt et que le soin de refaire sa fortune occupait tout son temps, mais qu'il n'avait pas oublié que vous étiez sa filleule et qu'il vous demandait en grâce de vous acheter un hochet de corail monté en argent, que nous ajouterions à son vieux compte. Comment, ma chère, êtes-vous sotte de ne pas vous le rappeler ? Et qu'il parlait avec un souvenir si reconnaissant du vieux Porto, dont il avait l'habitude de boire une bouteille et demie chaque fois qu'il venait nous voir. Vous ne pouvez pas l'avoir oublié, Catherine. Non, maman, non. Mais que disiez-vous de lui ? Eh bien, c'est Monsieur Watkins, ma chère, dit Madame Nickleby d'une voix tremblante, comme si elle faisait un effort de mémoire prodigieux pour se rappeler quelques faits de la plus haute importance. Ce Monsieur Watkins n'allait pas croire, Madame Nagg, que ce ne fût un parent de Watkins qui tenait le cabaret du vieil ours dans notre village. À propos, je ne me rappelle pas bien si c'était à l'enseigne du vieil ours ou de George IV, mais c'était l'un des deux, et d'ailleurs cela revient au même. Ce monsieur Watkins, donc, disait, quand vous n'aviez pas plus de 2 ans et demi, que vous étiez l'enfant la plus étonnante qu'il ait jamais vue. Oui, mademoiselle Nagy le disait, et cependant, il n'aimait pas du tout les enfants et n'avait pas le plus léger motif de la flatter. Et ce qui me remémore avec tant de précision ses paroles, c'est que je me rappelle, comme j'y étais, que 2 minutes après, il emprunta 500 francs à votre pauvre cher père. Après avoir cité cet éclatant témoignage, et surtout si désintéressé de M. Watkins en faveur de sa fille, Mme Nickleby s'arrêta pour reprendre haleine. Mais Mademoiselle Nagg, voyant que l'on mettait sur le tapis la grandeur relative des familles, saisit, sans perdre de temps, la balle au bond pour se faire valoir à son tour. « Ne me parlez pas de prêter de l'argent, Madame Nickleby, » dit Miss Nagg, « ou vous me rendrez folle, tout à fait folle. Maman était la plus aimable et la plus belle créature avec le nez le plus saisissant et le plus distingué qui ait jamais orné figure humaine, si je ne me trompe. » Madame Nickleby. » Ici, Miss Nagg, par un mouvement sympathique, se frottait le nez elle-même. La femme la plus délicieuse, la plus habile qu'on ait jamais vue, peut-être, mais chacun a ses faiblesses. La sienne était de prêter de l'argent et elle l'a porté si loin qu'elle a prêté. Oh, des milliers de guinées, toute une petite fortune, Madame Nickleby. Et ce qu'il y a de pis, c'est que nous vivrions jusqu'à. « Jusqu'à la fin du monde que nous ne le rattraperions jamais. J'en ai peur. » Après ce bel effort d'invention, Miss Nagg, sans s'interrompre, tomba dans une foule d'autres réminiscences aussi vraies qu'intéressantes, dont Madame Nickleby essaya, mais en vain, d'arrêter le débordement. Voyant pourtant qu'elle n'y réussirait pas, elle finit par louvoyer et par chercher dans ses propres souvenirs un autre courant, où elle put faire valoir à son tour. C'est ainsi que ces deux dames marchèrent de conserve, causant ensemble le long du chemin, dans un parfait contentement. Toute la différence qu'il y avait entre elles, c'est que Mademoiselle Nagg avait dans Catherine, à laquelle elle s'adressait à haute voix, un auditoire obligé, tandis que Madame Nickleby était réduite à se contenter de parler dans le désert, sans s'inquiéter s'il y avait ou non des oreilles ouvertes au bruit monotone de son babil incessant. Après avoir continué leur route d'une manière amicale, elles arrivèrent enfin chez le frère de Mademoiselle Nagg, qui tenait une boutique de papier de fantaisie et un petit cabinet de lecture dans une rue de traverse aux environs de Tottenham Court Road. Il louait au jour, à la semaine, au mois, à l'année, les vieux romans, les plus nouveaux qu'il put avoir, dont on voyait pendre à sa porte les titres énoncés en caractères écrits à la main sur une feuille de carton. Miss Nagg en était juste au moment où elle racontait le refus qu'elle avait fait de la 22e demande en mariage, dont elle avait été l'objet de la part d'un gentleman extraordinairement riche. Elle en resta là pour les inviter à venir souper en famille, et l'offre fut acceptée. « Ne vous sauvez pas, Mortimer !» dit Miss Nagg en entrant dans la boutique. « Ce n'est rien, c'est seulement une de nos demoiselles avec sa mère, Madame et Mademoiselle Nickleby. »« Oh, vraiment ?» dit Monsieur Mortimer Nagg. « Ah !»
Après s'être risqué à prononcer ces interjections d'un air profond et pensif, Monsieur Nag moucha majestueusement deux chandelles de suif sur son comptoir, deux autres sur la montre, et tira de la poche de son gilet sa tabatière. Il y puisa du tabac qu'il se souffla dans le nez. Il y avait quelque chose de très imposant dans l'air mystérieux qui présidait à tous ces détails. Comme Monsieur Nag était un grand maigre à traits prononcés, portant lunettes et beaucoup moins riche en cheveux qu'un monsieur de 40 ans, ou à peu près, peut ordinairement se flatter de l'être. Madame Nickleby dit tout bas à sa fille que ce devait être un homme de lettres.
10 heures passées, dit Monsieur Nag en consultant sa montre. Thomas, fermez le magasin.
Thomas était un garçon à peu près de la taille du volet qu'il emportait, et le magasin pouvait bien avoir la contenance de 3 fiacres.
Ah ! Dit Monsieur Nag, poussant encore ses interjections accompagnées d'un profond soupir, tout en rendant à la planche fidèle le livre qu'il venait de lire.
Bon, je crois que le souper est prêt, ma sœur.
Encore un soupir de Monsieur Nag pour prendre sur le comptoir les chandelles de suif et précéder les dames, d'un pas funèbre, dans une petite salle sur le derrière, où une femme de ménage employée, pendant l'absence de la domestique malade, moyennant 36 sous par jour à retenir sur les gages de l'autre, était en train de servir le souper.
« Madame Blockson, »
dit Mademoiselle Nag d'un ton de reproche,
« ne vous ai-je pas déjà défendu 100 fois de venir dans la chambre avec votre chapeau sur la tête ?»«
Je ne peux pas m'en empêcher, Mademoiselle Nag, » dit la femme de ménage qui prenait feu pour rien. « Il y avait tant à nettoyer dans cette maison. Et d'ailleurs, si cela vous convient, donnez-vous la peine d'en chercher une autre. Je ne suis pas déjà si bien payée de mes peines, et c'est la vérité, quand on devrait me couper par morceaux. »
Point d'observation, s'il vous plaît,
reprit Mademoiselle Nag en appuyant avec énergie sur le verbe impersonnel.
Y a-t-il du feu en bas pour avoir tout de suite de l'eau chaude ?
Non, il n'y en a pas, Mademoiselle Nag, répondit la vice-gouvernante. J'aime mieux vous le dire que de vous mentir.
Eh bien, pourquoi n'y en a-t-il pas ?
Parce qu'il ne reste pas de charbon. Si je pouvais en faire du charbon, j'en ferais. Mais comme je ne puis pas, je n'en fais pas, je vous le dis franchement, mademoiselle.
« Voulez-vous bien vous taire, femelle ?»
dit Monsieur Mortimer Nag, faisant une sortie violente.
« Permettez, Monsieur Nag, » repartit la femme de ménage en se retournant avec colère. « Je ne demande pas mieux que de ne pas dire un mot dans cette maison, si ce n'est pas pour répondre quand on me parle. Et quant à ce qui est d'être une femelle, je voudrais bien savoir ce que vous pourriez être vous-même. »
« Un vil misérable !»
s'écria Monsieur Nag en se frappant le front.
« Un vil misérable !»«
À la bonne heure !» dit Madame Blockson.
« Je suis bien aise de voir que vous ne vous donnez pas un faux nom. Mais comme j'ai eu 2 jumeaux, il y a 7 semaines avant-hier, et que mon petit Charles, en tombant dans le sous-sol, s'est démanché le cou de lundi dernier, je vous serai bien obligée de m'envoyer demain matin, avant 10 heures, à la mairie, les 11 francs 25 centimes que vous me devez pour la semaine. »
Après ces paroles d'adieu, la bonne femme sortit de la chambre avec une grande aisance de manière, laissant la porte toute grande ouverte, pendant que Monsieur Nag, au même moment, se précipitait dans le magasin pour y gémir à son aise.
« Qu'est-ce qu'il a donc, ce monsieur ?»
demanda Madame Nickleby, grandement alarmée de s'entendre exprimer ainsi ce chagrin.
« Serait-il malade ?» demanda Catherine, réellement inquiète.
« Chut, chut !» répondit Mademoiselle Nag. « C'est une histoire si mélancolique. Figurez-vous qu'il était autrefois amoureusement épris de... Madame Mantaligne.
« Dieu du ciel !»
s'écria Madame Nickleby.
« Oui !» continua Miss Nag.
Il reçut même d'elle de tels encouragements qu'il put espérer avec confiance qu'elle serait sa femme.
Voyez-vous, Madame Nickleby, c'est un cœur très romanesque. D'ailleurs, c'est comme cela dans toute notre famille. Jugez quel coup terrible ce fut pour lui quand il dut renoncer à cet espoir. C'est un homme d'un esprit merveilleux, l'esprit le plus extraordinaire. Il lit, il lit tous les romans qui paraissent, je veux dire tous les romans... un peu à la mode, comme vous pensez. Le fait est qu'il a trouvé dans ses lectures tant d'applications à faire à ses propres malheurs et qu'il s'est produit lui-même tant de points de comparaison avec les héros de ses livres, car il sent naturellement sa supériorité comme tout le monde, qu'il s'est mis à mépriser tout. Enfin, il est devenu un grand génie, et je parie qu'au moment même où je parle, il est maintenant en train de composer un ouvrage. « Encore un ouvrage ?» répéta Catherine, profitant d'un moment d'interruption pour placer un mot. « Oui !» dit Miss Nag, secouant la tête d'un air triomphant. « Comme un cheval de parade, encore un livre, en 3 volumes, une 12. » Vous comprenez que c'est un grand avantage pour lui dans toutes les petites descriptions élégantes de pouvoir mettre à contribution mon expérience, car naturellement, parmi les auteurs qui écrivent sur de pareils sujets, il en est peu qui aient eu autant d'occasions d'observer que moi. Il est donc totalement absorbé dans la peinture de la vie du grand monde, que la moindre allusion à de menues affaires de commerce ou de ménage suffit pour le bouleverser. C'est ce qui vient de lui arriver avec cette femme. Mais après tout, comme je lui répète souvent, c'est une chose heureuse pour lui que ces désappointements, car il n'en avait pas éprouvé. Comment aurait-il pu écrire de si belles choses sur les espoirs déçus et ainsi de suite? Pour moi, je suis persuadée que si les choses avaient tourné autrement, son esprit n'aurait jamais pris son essor. Qui peut dire jusqu'où serait allée l'expansion communicative de Mademoiselle Nag dans des circonstances plus favorables? Mais comme l'intéressante victime de Madame Mantaligne pouvait l'entendre, et que d'ailleurs le feu n'allait pas, elle se crut obligée de ne pas pousser plus loin ses confidences. À en juger par les apparences et par le temps que l'eau mit à bouillir, la domestique, domiciliée pour le moment à l'hôpital, n'avait dû guère connaître d'autre feu que celui de Saint-Antoine. Cependant, avec beaucoup d'eau et un peu de brandy, on réussit à la fin à composer une espèce de grog pour porter le dernier coup aux invités, déjà bien régalés d'un gigot de mouton froid, de pain et de fromage. Après quoi, elles prirent congé de leurs hôtes. Catherine, tout le long du chemin, ne pouvait se lasser de s'amuser en se rappelant l'état de profonde réflexion dans lequel son dernier coup d'œil avait trouvé M. Mortimer Nag plongé au fond de sa boutique. Pendant ce temps-là, Madame Nickleby débattait en elle-même lequel vaudrait mieux définitivement de mettre le magasin de couture sous la raison commerciale Mantaligne, Nag et Nickleby, ou Mantaligne, Nickleby et Nag. L'amitié de Miss Nag pour Catherine se soutint à ce paroxysme 3 grands jours. Toutes les demoiselles de Madame Mantaligne étaient stupéfaites de cette constance qu'elle ne lui avait jamais connue. Malheureusement, au 4e, voici le coup aussi violent que soudain qui vint gâter tout. Le hasard voulut qu'un vieux lord de grande famille, sur le point d'épouser une demoiselle qui n'avait pas de nom de famille, l'emmena, elle et sa sœur, pour essayer 2 chapeaux de noces commandés la veille. Madame Mantaligne, les ayant annoncés dans le magasin au moyen de porte-voix qui communiquait avec l'atelier, Mademoiselle Nac, à cette voix perçante, se hâta d'escalader le premier avec un chapeau dans chaque main et se présenta au salon dans un état de palpitation plein de charme, destiné, sans doute, à mieux faire éclater son dévouement et son zèle. Elle n'eut pas plutôt posé les chapeaux sur la tête de ces dames que Madame Mantaligne et elle tombèrent dans des convulsions d'admiration extraordinaires. « Quelle élégance! Quelle distinction !» dit Madame Mantaligne. « Je n'ai rien vu de ma vie d'aussi exquis !» dit Mademoiselle Nag. Pendant ce temps-là, le vieux lord, un très vieux lord, ne disait mot, mais il marmottait entre ses dents. Il ricanait entre ses lèvres, et dans un état de satisfaction et d'extase où se confondaient, à la fois, le plaisir de voir essayer les chapeaux et celui d'avoir eu le bonheur d'obtenir la main d'une si belle personne. Elle, de son côté,
jeune demoiselle aux allures un peu vives, en voyant le vieux lord dans ce ravissement, le poursuivait de temps en temps derrière une psyché où elle ne se gênait pas pour l'embrasser, pendant que Madame Mantalini et l'autre demoiselle avaient la discrétion de regarder d'un autre côté. Mais, pendant un de ces intermèdes, Mademoiselle Nag, en pointe de curiosité, passa par hasard derrière la psyché et se trouva nez à nez avec la demoiselle en question juste au moment où elle embrassait le vieux lord. Sur quoi, la demoiselle, devenant maussade, lui murmura quelque chose comme « Vieille bête, grande insolente !» et finalement lança à Mademoiselle Nag un regard de colère accompagné d'un sourire de mépris. « Madame Mantalini, » dit-elle. « Madame ? Faites-moi donc le plaisir d'appeler cette jeune personne que nous avons vue hier. »« Oh oui, je vous en prie !» aussi dit la sœur. « Il n'y a rien, Madame Mantalini, » dit la future du lord, en s'étendant languissamment sur le sofa, « que je déteste plus au monde que d'être servie par des horreurs et par de vieilles laidrons. Envoyez-moi toujours, je vous prie, cette jeune fille chaque fois que je viendrai. » « Oh, j'en suis sûre pour la jolie fille, » dit le vieux lord. « La belle et charmante jeune fille, s'il vous plaît. » « On ne parle que d'elle, » dit la fiancée avec le même sans-façon. « Et Milord, en sa qualité de grand amateur de la beauté, ne peut se dispenser de la voir. »«
Il est vrai que tout le monde en fait cas, » répliqua Madame Mantalini.
« Mademoiselle Nag, envoyez-nous Miss Nickleby. Vous n'aurez que faire de remonter. » « Pardon, Madame Mantalini, je n'ai pas bien entendu la fin, » demanda Mademoiselle Nag d'une voix tremblante. « Vous n'aurez que faire de remonter, » répéta la maîtresse avec aigreur. Miss Nag disparut sans demander son reste, et l'on vit bientôt arriver à sa place Catherine, qui ôta les chapeaux neufs pour remettre les vieux, rougissant jusqu'au blanc des yeux de voir comme le vieux lord et les deux jeunes dames ne cessaient pendant tout le temps de la dévisager.
« Comment ? Enfant, vous voilà toute rouge pour cela ?» dit la prétendue du vieux lord.
« Excusez-la, madame, » dit avec un sourire gracieux Madame Mantalini. « Dans une semaine ou deux, elle sera moins empruntée. »«
J'ai bien peur, » continua la demoiselle, « que ce ne soit, Milord, qu'une de vos œillades assassines qui l'ait mise dans cet état. »
« du tout, » répondit-il, « du tout. » À présent, je vais me marier, je vais faire vie nouvelle. Vie nouvelle.
Le vieux gentleman avait lieu de se féliciter de ce qu'il allait faire vie nouvelle, car il était bien évident qu'il en avait besoin pour remplacer sa vieille vie qui ne pouvait plus durer longtemps. Rien que l'effort qu'il fit pour ricaner, c'est ha ha ha, lui valut une quinte qui pensa le suffoquer. Il en eut pour 5 minutes avant de pouvoir reprendre sa respiration, pour faire la remarque que la petite demoiselle était trop jolie pour être modiste.
« J'espère, » dit Madame Mantalini de son plus joli sourire, « que vous ne regardez pas les agréments de la figure comme de trop dans notre commerce. »«
Bien loin de là, » répliqua le vieux lord, « où il y a longtemps que vous auriez quitté les affaires. »«
Voulez-vous vous taire, petit séducteur ?» dit sa future en portant les bottes à sa seigneurie avec le bout de son ombrelle. « N'êtes-vous pas honteux ?»
Cette question folâtre fut accompagnée de quelques bottes nouvelles contre lesquelles le vieux lord se défendit en lui prenant l'ombrelle qu'elle voulut reprendre, mais sans succès, jusqu'à ce que l'autre demoiselle vint à son secours avec une foule d'autres petites gentillesses véritablement intéressantes.
« Madame Mantalini, » dit-elle enfin. « Vous ferez faire tous les petits changements dont nous sommes convenus, n'est-ce pas ? Et vous, mauvais sujet, passez devant, je le veux positivement. Je ne vous laisserai pas seulement une demi-seconde derrière moi avec cette jolie fille. »«
Oh, je vous connais bien.
Jeanne, ma chère, faites-le passer devant, c'est le seul moyen de nous assurer de lui. »
Le vieux lord, évidemment enchanté de ce soupçon flatteur, gratifia Catherine en passant de l'œillade la plus bouffonne. Mais sa scélératesse lui valut encore un autre coup d'ombrelle. Puis, il descendit l'escalier d'un pas chancelant jusqu'à la porte, où le petit coquin fut hissé, à force de bras, dans sa voiture par deux laquais des plus robustes.
« Peuh !» dit Madame Mantalini. « Si j'étais à sa place, je ne pourrais jamais monter dans ma voiture sans penser que je monte dans mon corbillard. Allons, ma chère, emportez tout cela, emportez !»
Catherine, qui était restée pendant toute cette scène, les yeux modestement fixés sur le parquet, fut si charmée d'avoir la permission de se retirer qu'elle descendit, légère et joyeuse, l'escalier de Madame Mantalini pour entrer sous la férule de Mademoiselle Nag. Mais bon Dieu, quel changement s'était opéré pendant cette courte absence dans le petit royaume de l'atelier. Mademoiselle Nag ne trônait plus à sa place, sur le siège accoutumé où elle gardait toute la dignité et tous les grands airs d'une dame appelée à l'honneur de représenter Madame Mantalini. La digne demoiselle était en ce moment assise sur une grande boîte à chapeau, le visage baigné de larmes, avec trois ou quatre de ses demoiselles empressées autour d'elle. L'une tenant à la main de la corne de cerf, l'autre lui faisant respirer du vinaigre des quatre voleurs. D'autres encore lui présentant toutes sortes de sels salutaires, dont la vue témoignait assez, sans parler de sa coiffure en désordre et de son tour de tête défrisée, qu'elle venait d'avoir une pâmoison terrible.
« Ciel !» dit Catherine en se précipitant vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?»
Il n'en fallut pas davantage pour procurer à Mademoiselle Nag les symptômes d'une violente rechute, et les demoiselles de lancer à Catherine des yeux courroucés, toujours à grand renfort de vinaigre et de cornes de cerf pour la pauvre évanouie. Et l'on entendait de tous côtés
« Oh, que c'est affreux !»« Qu'est-ce qui est affreux ?»
demanda Catherine.
« Qu'y a-t-il ? Dites-moi, qu'est-il arrivé ?»«
Ce qui est arrivé !» s'écria Mademoiselle Nag, se dressant toute roide comme une barre de fer, à la grande épouvante de ces demoiselles consternées.
« Ce qui est arrivé ! Fille de vous, sale petite créature !»«
Dieu du ciel !» s'écria Catherine, presque paralysée par la violence avec laquelle le terrible adjectif avait franchi les dents serrées de Mademoiselle Nag.
« Quoi ? Vous aurais-je offensé ?»
« Vous, m'offensez ?» repartit Mademoiselle Nag.
« Vous, une morveuse, une enfant, une parvenue, une rien du tout ! Oh, par exemple, ha 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 !»
Il était bien évident à voir le rire compulsif de Mademoiselle Nag que cette prétention d'avoir pu l'offenser était excessivement amusante. Et, comme ces demoiselles ne manquaient jamais de s'inspirer de leur chef de file, elles tombèrent à leur tour dans un rire inextinguible, avec de petits signes de tête expressifs et des sourires moqueurs en se regardant les unes les autres comme pour se dire
« Voilà qui est fort !»«
Voici la demoiselle !» continua Miss Nag bondissant de sa boîte et présentant Catherine avec toutes sortes de cérémonies et de révérences les plus humbles à la compagnie qui pouffait de rire.
« Voici la demoiselle dont tout le monde parle, la belle des belles !» « Mesdames, la beauté du jour ! Ô vilaine effrontée !»
En ce moment de crise, la vertu de Mademoiselle Nag ne put réprimer un frémissement d'indignation qui se communiqua par un effet électrique à toutes les demoiselles. Puis, elle se mit à rire, puis elle se mit à pleurer.
« Voilà 15 ans !»
s'écria Miss Nag, avec des sanglots à fondre le cœur le plus dur.
« Voilà 15 ans que je suis l'honneur et l'ornement de cette chambre de travail et du salon du premier étage. Dieu merci !»
ajouta-t-elle en frappant d'abord du pied droit, puis du pied gauche, le parquet innocent avec une effroyable énergie.
« Je n'avais jamais été victime des viles intrigues. Oui, des viles intrigues d'une créature qui nous déshonore par sa conduite et qui, rien que d'y penser, fait monter la rougeur au front. Je devrais n'en ressentir que du dégoût. Eh bien, c'est plus fort que moi, je ne puis m'empêcher d'y être sensible. »
Ici, Miss Nag remonta dans ses vapeurs, et ses demoiselles, renouvelant leurs soins délicats, recommencèrent à la supplier de se mettre au-dessus de cela. Quant à elle, elle n'avait que du mépris pour de pareils procédés, et ne voulait pas même leur faire l'honneur de s'en occuper davantage. ce qui ne les empêcha pas cependant de répéter avec plus d'énergie que jamais que c'était une honte et qu'elles en étaient si furieuses qu'elles avaient peine à se contenir. « Faut-il que j'aie vécu jusqu'à ce jour pour m'entendre appeler une horreur ?» cria tout à coup Mademoiselle Nag, qui, dans ses convulsions, faisait des efforts pour s'arracher son tour de cheveux.
« Oh non, non, non !» reprit le cœur. « Ne dites pas cela, vous nous navrez. Je vous le demande, ai-je mérité qu'on me traitât de vieille laidron ?»
Et elle poussait des cris aigus en se débattant entre les mains de des demoiselles surnuméraires.
N'y pensez plus, répondit le cœur.
Eh bien, oui, je la hais, je la déteste et je la hais, qu'elle ne s'avise plus de me dire un mot, et que pas une de celles qui m'aiment ne lui parle jamais. Une coquine, une gueuse, une impudente petite gueuse.
Après cette apostrophe vigoureuse à l'objet de son courroux, Miss Nag poussa un cri, trois hoquets et je ne sais combien de glouglous du fond de la gorge. S'assoupit, frissonna, reprit ses sens, se remit, se recoiffa et déclara qu'elle se trouvait tout à fait rétablie. La pauvre Catherine avait d'abord regardé toutes ses grimaces d'un air effaré. Puis, elle était devenue tour à tour pâle comme la mort et rouge comme le feu. Elle avait même essayé deux ou trois fois d'ouvrir la bouche pour demander des explications. Mais en voyant se développer peu à peu les causes du changement d'humeur de Miss Nag, elle se retira quelques pas en arrière et continua de rester dans un calme parfait sans répliquer une parole. Néanmoins, tout en allant reprendre sa chaise dans le coin le plus reculé de la chambre avec un air de fierté blessée, tout en tournant le dos à ce groupe de petits satellites qui circulaient autour de l'orbite de leur planète éclipsée, elle aussi versa en secret des larmes amères qui auraient bien réjoui Mademoiselle Nag jusque dans le fond de son âme, si elle avait eu le bonheur de les voir.